la question de la souveraineté est d'ampleur dans nos régions, dans les régions ouest-africaines, particulièrement au Sahel. Et donc, quand des pays comme la France se retrouvent, disons, au cœur des discussions en matière géopolitique, d'autres États, d'autres puissances comme les États-Unis, les puissances européennes sont aussi dans une situation complexe ou délicate, je dirais. Et donc, pour ces régimes, c'est de pouvoir, la question c'est, est-ce que vous continuez avec les alliés classiques de la France avec qui vous êtes désormais n'êtes plus en phase, ou alors vous recherchez des alternatives? Et c'est là que, je dirais, l'Occident a ouvert un peu le terrain et la Russie en profite. Pour d'autres raisons qu'on peut évaluer si on a le temps, pas seulement en termes de... Parce que beaucoup mettent l'accent sur la question des ressources, oui, c'est vrai. Il y a des aspects géostratégiques importants. Je voudrais nous conseiller d'élever un peu la discussion parce que la Russie est de plus en plus étouffée en Europe et se prépare à des éventualités. Et donc le Sahel constitue un espace géographique important en matière de géostratégie.
On va revenir sur le rôle justement des acteurs internationaux. Des constats au Sahel est que l'espace civique et se rétrécit. Les autorités de transition et les groupes de milices affiliés ont adopté une approche répressive à l'égard des militants, des acteurs politiques et des organisations occidentales. Karine, comment les restrictions croissantes sur l'espace civique affectent-elles la situation sécuritaire et politique au Sahel?
J'aimerais revenir rapidement sur ce que M. Kodjo vient de dire, parce que justement ces restrictions que nous, en tant que Human Rights Watch, nous avons observé depuis quelque temps, se retrouvent quand même dans un contexte d'insécurité, d'opérations militaires contre le terrorisme qui justement exacerbe toute discussion, exacerbe toute frustration et les griefs que les populations ont par rapport à leur gouvernement, par rapport à leurs autorités, sur justement certaines de ces représailles. Et nous, j'aimerais rappeler que lorsqu'on parle de représailles, donc il y a des représailles contre les populations civiles, les populations qui se retrouvent dans des zones qui sont déjà assiégées par les groupes terroristes, donc qui se retrouvent, et ça ce sont des témoignages que nous avons, qui nous disent, nous nous retrouvons entre justement des attaques par des djihadistes, mais nous sommes aussi victimes des actions militaires de nos propres autorités. Donc ça, c'est une première dynamique. L'autre dynamique, évidemment, c'est ce que nous voyons justement en parlant du Burkina Faso, des représailles contre justement toute voix dissidente, que ce soit des journalistes, que ce soit des membres de mouvements citoyens bien connus comme le Ballet Citoyen, que ce soit des avocats qui justement se retrouvent punis, entre guillemets, et envoyé sur le front. Et donc, le droit, l'impact, les conséquences sont désastreuses. Donc, il y a une autocensure. Nous voyons des droits comme des droits, le droit de documenter, le droit, l'accès à l'information, le droit de surveiller en tant que citoyen, qui se retrouve complètement violé. Et cela, évidemment, amène un climat de peur, un climat d'autocensure qui va jusqu'à un moment où nous voyons des membres de la société civile qui cherchent à fuir leur pays, des gens qui ont résisté depuis des années, qui ont dit voilà, nous voulons participer justement dans cette démarche de consolidation d'un processus démocratique, qui arrive à un moment où ils n'en peuvent plus et ils partent.
Je vais revenir vers vous. Monsieur Cissé, vous avez vu, les chiffres sont alarmants. L'abandon d'école par des élèves, des enfants. Il y a des structures de santé qui ne fonctionnent pas. Face à l'urgence humanitaire actuelle au Sahel, quels mécanismes économiques et financiers peuvent être mis en place par les pays de la région pour améliorer rapidement leur résilience et leur capacité à répondre aux crises?
Ah, grande question, monsieur Eric, grande question. Alors, cependant, pour faire justice à cette grande question,
on attend une grande réponse aussi.
Voilà, je vais vous donner une grande réponse et une réponse qui va intégrer celle de mes deux prédécesseurs, monsieur Kodjo et madame Erika, je crois. Excusez-moi, Karine, voilà. Alors, et pour ce faire, je vais un peu faire un pas de côté des analyses traditionnelles, parce que tout le monde est au courant des programmes économiques et financiers en général. Mais je vais juste prendre un pas à côté, aller un peu en amont de l'urgence humanitaire, parce que l'urgence humanitaire déclenche tout de suite une certaine émotion, un surcroît de solidarité, ainsi de suite. Mais pour mieux balayer les questions économiques, je vais prendre un petit pas à côté et parler du conflit lui-même. Quand il y a un conflit, le premier bien économique important sur lequel il faut mettre l'accent, c'est d'abord la propriété du territoire lui-même. Le droit de propriété, les anglophones appellent ça « property rights », les droits de propriété. C'est-à-dire comment établir la souveraineté perdue sur des territoires, parce qu'on a parlé de population déplacée, on a parlé d'écoles fermées, on a parlé d'hôpitaux fermés, ainsi de suite. Ceci, le premier bien économique, c'est d'abord la maîtrise, le regain de la maîtrise du territoire. Ça, c'est très important, établir les droits de propriété là-dessus. Le deuxième bien économique qui n'a pas l'habitude d'être balayé, c'est tout le mécanisme de sécurité. Remettre un mécanisme de sécurité pour sécuriser ce territoire. Et là, je suis sûr que ça, c'est musique aux oreilles de M. Koyou. En général, ces pays-là souffrent du manque de matériel pour assurer la sécurité. Donc ça, c'est un autre point. Et d'ailleurs, ça, c'est même un pavé que je jette dans mon ancien jardin de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. C'est que nous devrions avoir moins de mainmise sur les budgets de ces pays pour qu'ils puissent mettre les priorités sur les besoins de sécurité. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point maintenant, je vais revenir maintenant aux endroits plus traditionnels, c'est de dire que ces pays ont besoin d'assistance, notamment de financements importants. Des financements aussi sous le, pas dans le cadre de la mendicité, mais des financements qui puissent assurer une école qui est centrée sur les besoins des gens, sur les besoins des réfugiés, des centres de santé qui sont centrés sur les besoins réels des populations. Et enfin, vous avez parlé de sécurité alimentaire. C'est qu'il nous faut définir une politique de sécurité alimentaire qui va un peu au-delà des approches traditionnelles. C'est-à-dire que c'est centré sur les cultures vivrières pour que ces populations puissent avoir regain et maîtrise de leur vie, un peu éloignées des cultures de rente. Tout ceci, vous voyez bien que c'est un peu loin du discours néolibéral qui a cours actuellement. Mm-hmm. Donc voilà ce que je vous dis pour le moment.
Merci, il faut aussi renforcer les capacités institutionnelles, économiques, n'est-ce pas?
Cela va sans dire.
Voilà, nous nous déplaçons de Washington à Ouagadougou pour recueillir quelques avis auprès des Burkinabés. Ils s'expriment au micro de notre correspondant, Lamine Traoré. Suivez.
La cause du terrorisme ici au Burkina Faso, dans le Sahel en général, on peut l'expliquer à plusieurs raisons. À mon humble avis, la première raison, c'est la malgouvernance. Voilà. Vous savez qu'à un certain moment, depuis le régime passé, le Sahel était délaissé. Voilà. Et le terrorisme, si on doit bien analyser, ça a pris ses racines là-bas. Donc le fait que ce Sahel est délaissé, je pense que c'est là la première raison. Voilà. La deuxième est que il y a un manque de cohésion.
Les activités de Burkinabé sont au ralenti sur tous les plans aujourd'hui. Sur tous les plans aujourd'hui parce que l'effet de crise sécuritaire, bon, nous sommes tous balancés un peu dans ce fléau. Quand on parle de la paix, il faut lutter pour que la paix revienne. Il y a ça qui fait que bon, la vie est difficile à tous les niveaux. Depuis très longtemps, ceux qui en souffraient de la mauvaise gouvernance, qui sont en train aujourd'hui d'en subir encore, autant se disaient que oui, un jour ça va aller. Aujourd'hui, on se demande à quand maintenant ça va aller.
Si les Burkinabés ont choisi la voie de la souveraineté, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, peut-être que il faut avoir l'espoir que d'ici quelques années, les gens vont voir le bout du tunnel. Ça, c'est la première possibilité qu'on veut dire. Les gens peuvent supporter, espérant avoir mieux dans quelques années. Que la situation, en tout cas, s'améliore et que la vie économique reprend. Le deuxième aspect est que
Les médias doivent accompagner la transition en permettant aux investisseurs de venir. Parce que quand les investisseurs en extérieur, ils attendent, tout est négatif, il y a la dictature, il y a quoi, quoi. Ça peut les bloquer. Et pourtant, tout n'est pas négatif. Quand on regarde le Burkina Faso, il y a des régions où les gens peuvent accéder à l'occupation sans problème.
Je vais maintenant donner la parole à trois membres de notre audience ici. En studio, chaque intervenant devra se présenter en indiquant son nom et son pays d'origine et sa profession avant de poser une question ou de partager un commentaire.
Salut tout le monde. Mon nom c'est Adam Ologem. Je suis journaliste malienne, indépendante journaliste. Donc je suis là depuis 39 ans. Mais je vis le quotidien de nos pays, des ressortissants de nos pays au jour le jour. Moi je suis Dogon. Je suis originaire. Je suis née à Bamako. Je suis de Bandiagara, le pays de Gon. Alors donc chaque jour on nous tue et nous sommes une minorité ethnique. Moi je vais poser la question à nos autorités, en fait ceux qui prétendent nous aider bien sûr. Que font-ils pour que ces crimes-là cessent, que nous puissions reprendre goût à la vie? Les gens n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de quoi vivre. Puisque quand on tue des gens, on rase le village, tout le village est parti. Donc tout le monde se déplace. Vous parlez de déplacer, ce sont ces gens-là. Donc chez nous, il n'y a presque plus rien. Donc c'est un cri de cœur. Ce n'est plus le journaliste, c'est l'activiste. Donc moi, je me demande qu'est-ce que l'Occident fait face à ça? Qu'est-ce qu'ils font pour nous aider? Moi, je suis là. Je me dis toujours que nous assistons à un nettoyage ethnique. Puisque quand on tue une minorité ethnique tous les jours, ça arrive à détruire la population, à déstabiliser, à nettoyer l'ethnie et à la limite faire en sorte que l'ethnie n'existe pas. Peut-être nous qui sommes ici en Occident, on pourrait prétendre être Dogons, mais est-ce que nous sommes vraiment des Dogons?
Merci.
Nous sommes en Occident depuis des décennies.
Oui, on va adresser votre question à M. Kodjo qui est militaire de formation. Lorsque vous menez la guerre, la sécurisation ou la protection des populations civiles, ça doit être une priorité.
Absolument. J'ai eu l'occasion d'être déployé pour une mission de maintien de paix au Libéria dans le bon vieux temps. Et quand vous êtes en opération, même si c'est un garçon que vous aidez, il y a un plaisir que vous ressentez. Et donc, l'idée que des militaires tueraient des civils juste pour le plaisir de tuer, il faut relativiser un peu. Je comprends parfaitement le cri de cœur que lance madame et toutes les interventions qu'on a entendues jusqu'ici nous ramènent à une équation avec une variable importante, le rôle de l'État. Tout le monde parle de la gouvernance, la mal-gouvernance comme étant la cause des problèmes ou tout ce que mes deux collègues aussi ont dit, que ce soit la répression ou disons les actions économiques, c'est l'État. Et donc dans les solutions qu'on doit rechercher, et c'est là que j'estime que nous tous, en fait, nous nous égarons de plus en plus. Parce que les situations que vivent ces pays sont la conséquence d'une série de choses. Il faut prendre le temps d'examiner pourquoi on en est arrivé à ça. Parce qu'on ne pourra pas régler la question sécuritaire tant qu'on n'a pas réglé la question de fond. Et tout le monde parle de la malgouvernance. Les recherches que moi je fais, quand vous regardez, je vais peut-être parler des solutions très rapidement, quand vous regardez le Mali, le Burkina Faso, le Niger, à chaque fois qu'il y a eu un coup d'État par le passé, 2012 au Mali, 2014 après comparé au Burkina, on se presse, on veut aller vite. Il faut, la priorité, c'est faire des élections. On l'a expérimenté. Dans tous ces pays, ça n'a pas marché parce que vous faites les élections, un nouveau régime civil est élu, s'ils sont heureux, s'ils sont chanceux, ils vont finir deux mandats et après on retombe encore dans les coups d'État. Et on reprend encore la même chose.
Il y a eu une élection au Tchad par exemple, ça a pris du temps mais c'est toujours un régime militaire.
C'est toujours un régime militaire. Élection, voilà, on l'appelle élection. Donc je crois qu'il faut s'écarter un peu de ce paradigme-là. Et ce que j'ai proposé, j'ai conçu un modèle, je suis politologue de formation. Et donc, sur la base de toutes les recherches que moi j'ai eu à lire, parcourir et faire, j'en suis arrivé à concevoir un système de gouvernance que j'ai appelé concentratie.
On va parler de la gouvernance dans la deuxième partie. Une deuxième question, s'il y en a dans la salle. Oui,
La question que j'ai, c'est beaucoup plus... je peux prendre un exemple. Il n'y a qu'une semaine, si je ne me trompe pas, nous avons fait un fundraising. Et avec le Mali, le Niger et les amis du Burkina qui étaient là avec l'ambassade et d'autres personnes qui sont venues d'ailleurs des Burkinabés et d'autres communautés. C'est vrai qu'en tant que Burkinabés, nous voulons vraiment aider réellement pour que la paix revienne, surtout cette histoire d'insécurité. Et comme quelqu'un l'a dit, je le suivais bien que c'est pas tout aussi qui est mauvais. Et nous avons besoin, en tant qu'Africains, surtout nous qui avons eu l'opportunité d'être à l'extérieur. Je vois beaucoup de gens parlent 10 ans, 20 ans, 30 ans ici. C'est beaucoup. Et je vois qu'en Afrique, le problème n'est pas uniquement que dans le Sahel. Et les autres pays réellement qui regardent, qui ne font rien, peut-être. Qu'est-ce que vous, vous pensez réellement que, en tant qu'expert vivant ici au niveau de la Banque mondiale Human Rights Watch, et également vous qui avez été des deux côtés ici en tant que professeur et aussi servi dans l'armée au niveau du Bénin, qu'est-ce que vous pensez que réellement nous devons réellement, si c'est bon, devons-nous aussi apporter cette histoire que c'est bon pour pouvoir que les choses avancent? Puisque en réalité, personne n'est pas d'accord pour cette histoire de militaire au pouvoir, pour être honnête. Mais à défaut de quelque chose, puisqu'on a dit que la nature aurait du vide, quelque chose a dû pousser pour que ces gens soient au pouvoir. Mais nous avons besoin de nous unir, ce qui n'est pas bon, comme ce que Human Rights a dit, pour on bafoue certains droits comme les journalistes. Nous ne sommes pas d'accord pour ça, quelque part. Mais je pense que s'il y a aussi un progrès quelque part, qu'on puisse aussi quand même faire sortir cela pour que les gens puissent voir. Et pour en finir, oui, on a besoin de la Russie, l'Europe ou les États-Unis, mais je pense que la solution même vient de nous en tant qu'Africains. Nous devons nous lever, prendre cela avec nos propres forces, et quand les autres vont voir, ils vont venir nous appuyer pour que nous puissions arriver à faire sortir, à pouvoir ramener la paix au pays. Merci, merci beaucoup.
Merci beaucoup. On va demander à Karine de faire un commentaire et voulait aussi apporter une réponse à madame Karine.
Merci. Tout d'abord, j'aimerais offrir ma sympathie et ma solidarité pour notre audience et pour tous ceux qui ont perdu les leurs, qui continuent à perdre les leurs. Parce que souvent, on oublie que pendant qu'on est en train d'avoir cette discussion, il y a des familles qui souffrent, il y a des femmes qui enterrent les leurs, il y a des enfants qui perdent leurs parents. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Monsieur Kodjo et Monsieur Cissé ont parlé de questions très importantes au niveau de la sécurité et au niveau de la gestion en fait économique. Il y a une question dont on parle parfois, mais c'est comme si on la passait de côté un petit peu. On la botte un petit peu de côté. C'est la question de la justice. Parce que lorsqu'on parle de mort, lorsqu'on parle de victimes, que ce soit des victimes des groupes djihadistes, que ce soit des victimes des forces de sécurité nationale, j'ai presque envie de le dire en anglais, at the bottom of it, l'underbelly, c'est qu'elles réclament justice. Et l'absence de justice, et bien que ce soit difficile de mettre en place des systèmes aussi transparent que l'on voudrait, aussi bien étayé que l'on voudrait dans un contexte justement d'insécurité et de fragilité économique et politique, une certaine justice doit être rendue. Parce que lorsque nous parlons aux familles des victimes, combien de mères nous disent « Moi, mon fils, il est allé rejoindre les groupes armés djihadistes » parce que nous n'avons plus espoir, parce que, justement, en parlant de l'absence de l'autorité étatique, parce que nous ne sentons pas, nous ne voyons pas notre gouvernement. Mais, encore plus grave, ils tuent les nôtres. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a, ils sont en colère, il y a des griefs qui ont pris racine pendant des années. Donc, la question de la justice est très importante. À mon frère qui pose la question de savoir que font les autres pays africains, on en reviendra, je pense, plus tard. Mais c'est une très, très bonne question. Elle est où, l'Union africaine? Ils sont où, les panafricanistes, les leaders dont on a grand... Moi, j'ai grandi en entendant de grands noms. Ce qui me rappelle une autre chose, c'est que le Burkina Faso, le Mali, le Niger et tous ces États, ce sont de grands peuples. Ce sont quand même des nations dans lesquelles nous avons vu de grands hommes, lorsqu'on parle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais le protocole de Ouagadougou. Le Burkina Faso fait partie d'un très petit nombre de pays qui ont reconnu justement la juridiction de la Cour à entendre les récriminations de leurs citoyens.
Il y a aussi
Ce sont des opportunités que l'on doit saisir. Et on va parler du rôle des mouvements de la société civile, etc.
On va parler tout à l'heure.
Voilà.
Il y a aussi la déclaration de Mandé.
De Mandé, exactement.
Oui. Oui.
Exactement.
On va prendre une troisième personne. Oui.
Moi, ma question est que on sait que les Africains sont toujours solidaires. Mais dans des guerres, on ne voit pas vraiment cette solidarité. Et quelqu'un parlait de l'Union africaine qui n'existe pratiquement pas. C'est pas aux autres de venir faire la paix en Afrique. C'est aux Africains eux-mêmes de chercher leur solution au niveau interne. Et l'aspect humanitaire, c'est de ça qu'on a besoin en Afrique. Parce qu'on ne fabrique pas l'argent en tant que tel en Afrique. Il n'y a pas une usine qui fabrique l'argent en tant que tel en Afrique. Donc, tout est monnayé. On a besoin vraiment de l'aide internationale. Mais l'aspect terroriste, c'est quelque chose que les Africains peuvent régler. Mais je ne sais pas pourquoi le terrorisme devient un mystère pour tous les gouvernements en Afrique. D'où vient le terrorisme? Qui le finance? Et pourquoi le terrorisme vraiment gangrène l'Afrique? Personne ne veut en parler. De l'aide, c'est bien. Mais la cause même principale de ce qui fait souffrir les Africains, pourquoi on ne cherche pas vraiment les racines? Les terroristes ont des griefs. Quels sont ces griefs? On peut vraiment les collecter, les analyser et puis voilà, proposer des solutions. Vous voulez ça? Laissez les populations là en paix et puis voilà, le gouvernement va s'occuper de vous. Et s'ils ont besoin d'un morceau de territoire pour eux, bon, mais la fédération s'est fait pour ça. Mais tout le temps, on revient sur la même chose. La cause est là, mais on tourne vraiment les yeux. Laissez aux Africains eux-mêmes de trouver leur solution. S'il y a de l'aide au niveau international, ça serait humanitaire. Mais le problème est connu de tous, mais on évite. Finalement, le terrorisme devient seulement du commerce, et pour le gouvernement, au niveau local, et pour la communauté internationale.
On va demander à monsieur si c'est dire un mot. Il parle de l'Union africaine. On sait que c'est une organisation qui a besoin aussi de l'aide pour financer son fonctionnement.
Absolument, absolument. Oui. Alors, je voulais rebondir sur ce certain nombre de questions soulevées dans l'auditoire et sur les commentaires de mes collègues, ajouter deux choses. Quand j'avais parlé du rétablissement de notre droit de propriété sur les territoires, c'est vraiment une façon de dire qu'il faut regagner la souveraineté pour que les pays soient en charge de leur sécurité et qu'ils soient en charge de leur développement. Alors, ceci vraiment nécessite qu'on se pose des questions de base. Le conflit là, nous sommes des Africains ici, chacun sait que ce sont des conflits qui ne sont pas endogènes. Madame a parlé des Dogons. Vous voyez, n'importe quel groupe ethnique en Afrique ont toujours vécu des millénaires, je dis bien des millénaires, pas des siècles, des millénaires ensemble. Il n'y a jamais eu de problème et il n'y en aura pas. Il ne peut pas y en avoir de manière objective. Alors, le point, c'est que faisons face à la situation, il y a eu des influences extérieures qui ont utilisé des griefs locaux pour animer un conflit. C'est ça le problème. Alors, il faut faire face à ça. Il faut faire face à ça et être capable de mobiliser le capital social qui dort dans nos pays. Chaque ethnie est frère de l'autre, est sœur de l'autre. Nous avons des mécanismes qui nous vouent à l'entente et à la paix. Maintenant, défaire cette ingérence extérieure n'est rien du tout si la domination est soulevée des États que nous avons.
Merci, monsieur.
Et c'est pour ça que nous avons des militaires au pouvoir aujourd'hui. Pourquoi nous les tolérons? C'est parce qu'ils expriment profondément, disons, les besoins des populations qui sont là.
Merci, on va continuer la discussion.
Et j'espère qu'on en arrivera là.
Merci à vous tous pour vos différentes perspectives. Observons une petite pause pour garder la discussion productive. Ne partez pas, nous revenons dans un instant.